début de semaine. Bon lundi à vous tous. Lundi 8 juillet, nous amorçons la troisième semaine de Aime l'été. Ici Chantal Lavoie, j'espère que vous allez bien. Ce midi, une émission chargée et variée, un rendez-vous autour de la diversité et notamment de la diversité sexuelle, mais aussi au menu harcèlement de rue et dictature du bonheur, rien de moins. Du théâtre pour tous et de la littérature pour jeunes adultes. Et enfin, une camionnette remplie de livres sillonne les rues de Montréal pour que les jeunes puissent faire le plein d'histoires. Alors soyez des nôtres au cours de la prochaine heure. Voici Aime l'été. Aujourd'hui à l'émission Chronique littéraire avec notre collaboratrice et stagiaire Clarence Robitaille-Meloche, elle a lu pour nous Loveless, un roman sur le spectre de l'asexualité et de l'aromantisme. Aussi une étude sur le harcèlement de rue, les impacts sur les femmes à Montréal. On en discute avec Béatrice Mercier, intervenante du Centre d'éducation et d'action des femmes. On reçoit également Claude Ayerdi-Martin à propos du Roux-Livre, cette bibliothèque mobile pour les jeunes de 13 ans et moins. Et 6 comédiennes et 6 autrices nous vendent du bonheur à tout prix à l'occasion d'une fin de semaine de ressourcement. C'est le sujet de la pièce présentée au Théâtre La Marjolaine cet été. On accueille son directeur artistique Marc-André Coilier. Bienvenue à Aime l'été. Et oui, Aime l'été, déjà troisième semaine. Bonjour Nathalie Barrette.
Bonjour, comment vas-tu?
Mais très bien, alors déjà notre troisième semaine.
Oui. As-tu passé un beau week-end?
Ben tout à fait, oui.
Oui, je voulais te dire que moi, ce week-end, j'ai emprunté avec mon vélo, selon moi, une des plus belles pistes cyclables à Montréal.
C'est vrai.
Elle longe le fleuve dans Verdun et je suis allée à la vague Agui. Connais-tu la vague Agui?
Pas du tout.
Alors la vague Agui, c'est des gens qui se regroupent là puis qui font du surf. C'est une vague qui est là, constamment. Les gens descendent dans l'eau avec leurs planches de surf, puis ils font du surf sur la vague. Et il y a plein de monde qui vont admirer ces jeunes-là, téméraires, mais il y a des jeunes et moins jeunes, bien entendu, qui affrontent la vague Agui. Alors, allez voir ça, c'est beau.
Alors, de toute façon, Nathalie, on parle de quelqu'un qui a peut-être fait du surf. En fait, il a fait du catamaran, ça, c'est sûr.
Du catamaran, de la planche à voile, plein d'affaires. La vague Agui, est-ce que c'est celle qui est juste derrière Habitat 67?
Non, c'est une autre.
Elle est plus vers, quand on s'en va vers la Chine, on passe donc...
Quand tu prends le bord du fleuve à Verdun.
À Verdun, ben, la Véranderie, tout ça, puis on continue.
Ouais, okay. C'est vraiment pas loin de
l'île
des
Sables. C'est Bouvard-la-Salle, en fait. C'est Bouvard-la-Salle qui est là.
Ouais,
j'ai habité là, moi, dans ce coin-là. Mais j'ai pas fait de surf.
C'est tellement chouette.
Un plaisir de vous retrouver. Vous m'amenez en ville. C'est le fun. Vous me ramenez en ville en plein été.
Je pense qu'on la reconnaît tout de suite. C'est Marc-André Coilier, bien sûr, qui est au Théâtre de la Marjolaine, qui est le fondateur.
C'est ma 20e année.
C'est ça. Je vais dire tu, hein, parce que
vas-y.
C'est ta 20e année. Tu l'as acheté. Bon, ça va peut-être situer ton âge, mais ça fait 40 ans que tu as acheté la Marjolaine.
Non, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis là, mais j'avais 40 ans.
Tu avais 40 ans. Je m'excuse. Oui. Écoute, franchement.
Tu le vieillis.
Tout à fait. Je le vieillis. Non, je comprends.
J'avais 40 ans. Mais ça fait 40 ans qu'on se connaît, par exemple.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on a commencé, on faisait de la radio ensemble à Longueuil dans le temps.
C'est ça, quand on parle trop avant les émissions, ça nous distrait, puis là, on se mélange.
Fait qu'en fait, la Marjolaine, c'est le plus vieux théâtre d'été encore debout au Québec.
Mais
c'est
oui.
une grange transformée en théâtre en 1960. Puis au début, c'est des promoteurs immobiliers qui avaient acheté comme une terre ancestrale, la grange, puis là, ils voulaient vendre des terrains, puis ils se sont dit, la grange, on va la transformer en théâtre, on va prêter ça à des comédiens, ils vont jouer au théâtre l'été. Ça venait à peine de commencer, il y en avait un autre plus vieux qui était à Québec, La Fenière, qui a fermé ses portes en 2010. Alors, la Marjolaine reste le plus vieux encore debout. Puis, ce qui est arrivé, c'est que les promoteurs immobiliers, après 3 ans, le théâtre fonctionnait super bien, mais ils n'ont pas vendu un maudit terrain. Ce qui fait que sont partis, et c'est là que Marjolaine Hébert, qui faisait partie de la gang de comédiens du début, a décidé d'acheter. Et le théâtre La Marjolaine est devenu le théâtre de Marjolaine pendant les 35 étés qu'elle a été là. Puis, quand elle est partie à chercher un acheteur, elle a trouvé un locataire, il est resté là 5 ans. Quand il est parti à rechercher encore un acheteur, puis moi, arrivé en 2003, puis j'ai acheté ça pour réouvrir en 2004. Puis ça fait 20 ans, on est en 2024.
C'est ça. Donc, alors, et puis, en fait, c'est ça, parce que le théâtre de la Marjolaine, là, des théâtres comme ça, là, des théâtres d'été, là, comme la Marjolaine, ben, il ne s'en fait plus à toute fin pratique.
C'est ça, il faut faire la différence. On dit, c'est le fun, le théâtre d'été. Bon, Il y a le théâtre en été. Mm-hmm. Alors là, tu as des beaux centres culturels qui présentent des pièces plus légères, rigolotes, des pièces, des productions estivales. Ça peut être du théâtre musical, ça peut être même lyrique des fois, mais c'est souvent du théâtre des comédies. Et il y a les théâtres d'été qui sont des lieux qui habituellement sont fermés l'hiver. C'est donc, ça. On pense aux anciennes granges. Et ça s'est passé comme ça. Début des années 50, fin des années 50, donc La Fenière à Québec. Après ça, 1960, La Marjolaine. Puis là, en 67, là, t'as le Patriote à Sainte-Agathe. C'était le théâtre La Sablonnière. C'est mm-hmm. devenu le théâtre Le Patriote. Après ça, dans les années 70, on était déjà une trentaine de théâtres d'été. Donc, de vieilles granges transformées en théâtres qui ferment l'hiver puis qui ont une programmation l'été. Et puis après ça, là, en 80, on est rendu à 200 théâtres d'été.
C'est ça,
et le
pic,
beaucoup, là, au Québec, c'est 300 théâtres d'été.
C'est énorme.
Et là, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement du Québec a dit on va arrêter de subventionner le théâtre d'été, là, les petits théâtres privés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va investir dans des maisons de la culture, des beaux centres culturels pour qu'il y ait de la diffusion culturelle partout au Québec. Mm-hmm. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont subventionné d'une certaine façon les producteurs de spectacles. En offrant un crédit d'impôt. Si tu fais une production puis t'engages de la main-d'œuvre québécoise, texte, scénographie, musique, comédien, tout ça, là, éclairagiste, tu vas avoir droit à un crédit d'impôt. Ce qui motive les producteurs à faire de la production culturelle en danse, en chant, en
c'est
humour,
ça.
En théâtre.
Ouais.
Et puis, bien là, maintenant, les théâtres d'été, c'est des beaux centres culturels
exact.
Partout qui ont des pièces d'été, mais
qui
il reste encore
l'année.
Quelques granges,
ouais,
comme la Marjolaine.
Donc, c'est une espèce en voie de disparition,
oui,
là, ce
fait.
Type de théâtre.
Ce sont les ours polaires du
oui,
théâtre.
Les vrais oui. théâtres d'été d'autrefois. Alors, donc, 65 ans que ça existe.
Ouais,
et puis,
la Marjolaine.
La Marjolaine. Et puis, on a toujours eu aussi une présence de chansonniers à la Marjolaine. Hein?
Parce qu'il y avait, dès le début, 1960, la boîte à chansons.
Exact.
La première boîte à chansons, c'est Normand Hudon, le peintre, le caricaturiste.
Oui, oui.
Qui, dans les années 60, était le caricaturiste de la presse.
Mm-hmm.
En 67, il a fait la marée statique dans le pavillon du Québec. Donc, lui, il animait la boîte à chansons. En 62, il laisse sa place à Jean-Pierre Ferland, qui anime à la Marjolaine Feuille de Guy. Et c'est sa blonde René-Claude qui chante tout l'été de 1962. Et après ça, en 64, là, ça change parce que Claude Léveillé accepte l'invitation de Marjolaine Hébert pour venir écrire la musique de ce qui va devenir la première comédie musicale canadienne-française.
Ouais.
D'Outant des amours. Et avec Claude Léveillé, il y a François Cousineau qui était là.
Ouais.
François Cousineau transcrivait la musique de Léveillé, faisait les arrangements et lui, il jouait la musique en coulisses pendant que les comédiens, les André Lachapelle, Guy Sanche, Léveillé étaient là la première
ouais.
année. Après ça, t'en as eu d'autres. Là. T'avais des Jedi comme...
Les grands comédiens de l'époque.
Les grands comédiens, que ce soit Denise oui. Pelletier, que ce soit Jean Besseri, que ce soit Gaëtan Labrèche, tout ça. Mais t'avais aussi des jeunes qui sortaient des écoles
c'est
dans
ça.
Les années 60. T'avais Robert Charlebois.
Exact.
T'avais Louise Forestier c'est... en 66. Alors, la boîte à chansons était animée en même temps que le théâtre d'été.
Ouais,
quand François Cousineau était là, en 67, 68, 69, il invite Diane Dufresne à
tout
chanter à la boîte à chansons. Après ça, il invite dans les années 70, son frère, Luc Cousineau, les Alexandrins. Alors, c'est Joël Denis a été
ah
en
oui,
boîte
ah,
à chanson de la Marjolaine. Ça
oui,
s'appelait
les
le Chat Gris. Voilà, voilà.
Alors, c'est fantastique. Et d'ailleurs, il subsiste des vestiges de ça parce que tu as gardé le fameux piano de Claude Léveillé.
J'ai voulu le garder, mais je lui ai demandé la permission.
Ben oui, il fallait lui demander.
Il me l'a accordé. Ouais. Il m'a légué sa monture.
Parce que... là, écoute, c'est très beau. Je l'ai noté,
ouais.
moi,
selon
cette,
lui, il
n'y
a pas de mauvaise monture, il n'y a que de mauvais cavaliers. Et il m'a nommé palefrenier de sa
oui.
monture. Alors, j'ai son petit piano qui est rouge. Quand j'y ai dit, on va appeler la boîte à chansons le piano rouge, il dit, pourquoi? J'ai dit, parce que votre piano est toujours là. Il dit, c'est quoi le rapport? J'ai dit, votre petit piano rouge. Il dit, il n'a jamais été rouge. J'ai dit, vous avez peut-être manqué des bouts, parce qu'effectivement, quand vous êtes arrivé, il n'était pas rouge. Un petit piano blond, que lui, il dit. Mais après ça, dans les années 80, je pense qu'ils ont peinturé le piano de l'éveillé rouge pour
c'est
un
ça.
Show, je pense.
Alors, finalement, donc, il a trouvé son bon cavalier, le piano rouge, parce
voilà.
qu'il est toujours là. Et vous avez toujours le côté boîte à chansons.
C'est l'après-théâtre qu'on
c'est
appelle. L'après-théâtre. Comme là, on joue voilà. un show avec 6 filles, 6 comédiennes, peut contenir des traces d'égo. Puis quand le show se termine, les filles traversent, vont dans leur loge, se changent. Et déjà, moi, j'ai quelqu'un dans mon staff qui joue du piano. Puis là, les filles descendent. Là, Valérie Blais a fait des numéros d'humour. Il y en a d'autres qui viennent chanter. Dans la gang, on a Joël Lanctot qui a fait Mary Poppins ici mm-hmm. à Montréal. Fait que c'est sûr qu'elle chante, elle. Alors, C'est ça. C'est comme une soirée parfaite où les gens arrivent un peu plus tôt, ils prennent l'apéro, ils goûtent la sérum du théâtre La Marjolaine, une eau de vie qu'on a fabriquée. Et puis après ça, c'est la pièce de théâtre. En ce moment, c'est peut contenir des traces d'égo. Plus tard, au mois d'août, ça va être les nonnes. Là, les nonnes sont à Sainte-Thérèse. Si
c'est
vous voulez les voir.
Là où tu as étudié.
Ça, c'est drôle.
Tout
parce
est dans
que
tout.
Moi, j'ai commencé, j'ai étudié le théâtre à Sainte-Thérèse. Je suis sorti comme comédien et là, j'y reviens par la grande porte comme producteur pour amener mes nonnes dans ce lieu de diffusion qui est le Théâtre Lionel Groulx, où ils veulent faire aussi du théâtre en été.
En été, fait voilà.
Le théâtre d'été s'en va partout. Il s'en va dans des beaux centres culturels
et
comme à Lionel
Groulx. Ça a été le plus gros succès, hein, les nonnes.
Les nonnes, ça a sauvé le théâtre de Marjolaine en 88. Ça m'a aidé à redémarrer le théâtre en 2004. Moi, en 2004, c'était Marie-Michel Desrosiers, ma mère supérieure.
Oh.
Et là, en 2019, pour les 60 ans de la Marjolaine, c'était Dorothée Berryman. Et là, on devait partir en tournée. Mais est arrivée la pandémie, mm-hmm. fait qu'on a sauté notre tour. Et alors, c'est là que la tournée a lieu.
C'est
on est
ça.
À Sainte-Thérèse, on va être à Valspec, Valleyfield. Puis on va même être au Rideau Vert en novembre.
C'est fou. Et puis, écoute, ça veut dire que même dans le temps... D'ailleurs, tu as terminé la tournée...
Droit, ça s'appelle maintenant « Ils étaient 10 ».
Ah, oh, c'est ça!
Parce que
oui,
c'est le mot
raison.
Défendu. C'est Agatha Christie elle-même qui l'a changé. Non, mais c'est le roman que tout le monde a lu. Et à un moment donné, elle s'est fait dire « On ne peut plus utiliser ce mot-là ».
Non, t'as raison, c'est
alors,
ça.
Alors là, c'était devenu « Les 10 petits Indiens ». Mais après ça, on s'est dit, c'est on ne peut plus dire ça non plus.
Non
là.
Plus. Non.
Voyons donc. Fait que moi, je l'ai joué il y a 10 ans. La pièce de théâtre, c'était Ils étaient 10. Devinez qui, ils étaient 10. Et c'était la comptine des 10 petits chats. Mais maintenant, c'est la comptine des 10 petits soldats.
Voilà.
Comme les petits soldats, les petits casse-noisettes.
Et puis
si
donc,
on veut.
Tu as.
Ouais.
C'est ça, tu viens. Alors, ça veut dire que le théâtre se poursuit tout le temps.
Écoute, j'ai joué de octobre à mai 122 représentations de cette pièce d'Agatha Christie.
C'est
inspiré du roman, mais la fin est différente. Ils étaient 10, c'est plus
c'est
une fin
chose.
Hollywoodienne, mais
mm-hmm.
c'est la même intrigue.
Alors, parlons de la pièce qui joue présentement.
Oui, bien, peut contenir des traces d'égo. C'est vraiment. Mon thème, c'est un été de fille. Fait que là, c'est peut contenir des traces d'égo. Après ça, ce sera les nonnes. Les deux, c'est 6 comédiennes. Dans peut contenir des traces d'égo, c'est 6 amies de filles qui étaient dans la même équipe de ringuettes il y a 15 ans, qui là se retrouvent le temps d'un week-end thérapeutique de empowerment, là, tu sais, et puis de croissance personnelle. Mais il y en a une dans la gang qui est un peu gourou ses bars, qui les a invitées, puis qui va essayer tranquillement de les arnaquer. Et puis, il va se passer plein d'affaires. C'est très drôle parce que comme gars dans la salle, on voit enfin ce que toutes les femmes pensent dans leur tête. Et vous en avez du stock dans votre tête?
Oui.
Ça n'a pas de bon sens, c'est pas reposant
c'est
être une femme.
Non.
Mais vous êtes donc bien occupée dans
c'est
votre tête.
C'est épuisant.
Oui. Alors,
grosse charge mentale.
Ah, les filles adorent ce show-là. Ça crie, ça rit comme des fous, folles. Et puis les gars ont fait « Ah, ta boy, ils sont vraiment déjantés ». C'est un show très drôle, très le fun. Le monde aime ça.
Moi, Marc-André, je suis vraiment impressionnée par la distribution.
C'est vrai, c'est vrai.
Ah, c'est vraiment une distribution incroyable. Si tu veux les nommer, là.
Alors, Catherine Proulomé, Geneviève Brouillette. On a aussi Valérie Blais.
Oui.
C'est les trois plus connus là, qu'on voit beaucoup à télé. Mais quand même, Catherine Paquin-Béchard, Joël Langteau. Je vous disais, c'est celle qui faisait Mary Poppins. Et puis, Eve Presseau.
Et voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent parce qu'ils se disent, « Ah, il y en a 4 que je vois dans mes téléromans préférés, que ce soit District 31 ou autre. » Mais quand ils ressortent de la pièce, ils font « Hey, mais les deux autres qu'on connaissait un peu moins, là, mais sont donc bien bonnes. » Mais oui, mais c'est des comédiennes de théâtre.
Ouais.
Puis malheureusement, les gens connaissent les acteurs de télé. Mais tous ces acteurs-là, vous avez la chance de pouvoir les voir sur scène des fois.
Mm-hmm.
Parce que tous les comédiens qu'on voit à la télé jouent aussi au théâtre. Et c'est là que le comédien prend vraiment toute sa dimension. Mm. Sur scène, les arts vivants, il n'y a rien qui remplace ça. On était tellement malheureux pendant la pandémie d'être coupés des arts vivants. Oui, une pièce de théâtre diffusée à la télé, c'est correct. Mais c'est pas comme voir Robert Lepage pour vrai, Guy Nadon pour vrai, Guylaine Tremblay pour vrai, puis mes comédiennes là pour vrai.
Alors c'est ça. Donc il y a cette pièce là qui va jouer et puis
les nonnes
en parallèle
qui en ce moment là s'en vont à Sainte-Thérèse dans 10 jours. Fait que venez nous voir dès le 25 juillet en fait à Sainte-Thérèse au théâtre Lionel Groulx. Il reste encore des bons billets.
Parfait, Nathalie.
Marc-André, le 20 juillet, vous travaillez avec Connecté. Le 20 juillet, il y a une théâtre de description en fait
spécial,
qui va être disponible
Alors c'est les personnes non voyantes.
Exactement.
Alors il va avoir à peu près une dizaine de chiens guides dans le théâtre, mais il y a aussi des accompagnateurs. Mais j'ai 70 non-voyants qui viennent voir la pièce. On dit ça, hein? Venez voir une pièce de théâtre.
Ouais.
Mais ils vont écouter la pièce de théâtre, les comédiennes parler, pendant que quelqu'un, dans leurs oreilles, quand les comédiennes ne parlent pas, décrit l'action. Alors, c'est une comédienne, Valérie, là, qui est une comédienne aussi, qui elle, décrit l'action. Valérie Gagné, elle décrit l'action. La comédienne prend son verre. Elle le dépose, elle sort un couteau. Ouais. Fait que les gens, ils comprennent vraiment, ils voient ce que les autres voient.
Ouais. C'est la représentation, donc samedi 20 juillet.
Mais c'est
à
déjà
15
complet, va falloir en faire une autre.
Ben, vous allez en faire une autre.
Ben, va falloir. Va falloir.
Oui. Ben, c'est sûr qu'évidemment, c'est toujours très populaire. Mais cela dit, alors, vous êtes vraiment non seulement un entrepreneur, mais vous avez amené la diffusion aussi d'œuvres. Enfin, vous êtes un peu à l'image. Pourquoi je te vois?
Je vois tout d'un coup, je m'imagine.
À qui elle parle? À part M. Coilier, c'est moi. Elle a tellement travaillé avec papa.
C'est parce que je pensais à ton père.
Ben oui.
Et puis là, c'est ça. Puis je voulais faire le lien avec ton père. Vraiment, lui, c'était sa cause, c'était la langue française, c'était la chanson française. Et puis toi, c'est le théâtre. Alors vraiment, vous avez des affinités. Hein,
les gens au théâtre, ils font deux choses quand ils me croisent. Il y en a qui veulent faire la poignée de main du Club des 100 watts. Oui. Puis il y en a d'autres qui me disent, comment va Jean-Pierre? Il va très bien, 86 ans. Mais vous vous ressemblez tellement. Je suis le fruit tout près de l'arbre.
Ouais.
Et puis quel arbre, dans le fond, il est tout fait.
Et la pomme
n'est
pas tombée loin,
partout.
Bien sûr. Ouais, alors, c'est ça. Et bien oui, papa va bien. Effectivement,
bien.
On en
très
a parlé
bien.
Tantôt hors d'onde. Et puis c'est ça, je m'étais informée à Frérot, là, de ton petit frère, façon de parler. Là,
c'était une affaire de famille, puis Chantal en faisait partie. Écoute, on a tellement eu des bons moments. Mais tu sais, ça remonte à Ciel FM. Après ça, ça a été Radio Classique. Radio Classique, c'est quand même 17 ans.
Tout à fait.
Quand même. Puis Ciel, moi, j'ai commencé, je vous parlais de l'école de théâtre à Sainte-Thérèse. Moi, les fins de semaine, là, je faisais la nuit à Sainte-Thérèse. Puis après ça, avec Chantal, là, je faisais le samedi matin. J'étais celui qui faisait la mise en onde, comme votre collègue ici à côté. Puis Chantal était la lectrice de nouvelles, toi. On avait du fun, nous, samedi
tout à fait,
matin.
Tout à fait. Alors,
de 6 à midi.
C'est des beaux souvenirs.
Voilà.
En tout cas, alors, écoute, bon été.
Merci à vous deux.
Merci d'avoir été là. C'est très généreux de ta part.
Merci, Canal M. Venez à Sainte-Thérèse ou à Eastman. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir.
Merci.
C'est beau. Ah ben, j'accueille maintenant celle qui est intervenante au Centre d'éducation et d'action des femmes. Alors, on parle avec Béatrice Mercier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, elle est avec nous en studio. C'est très bien. On va parler d'un sujet pas facile, évidemment, mais d'un sujet qu'on connaît bien, nous, les femmes. On est trois femmes en studio. Mm-hmm. Le hasard fait que nous sommes trois femmes, à part Mathieu, qui est en régie. Mais bon, je pense que quand même, tu vas être solidaire. Et puis, même que les hommes ne sont pas non plus à l'abri du harcèlement de rue à Montréal. Hein. Alors, bon, bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir pour un sujet quand même pas évident. C'est qu'en fait, vous êtes intervenante au Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal. Parlez-nous un peu de ce centre d'abord.
Oui, bien sûr. En fait, le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, on peut l'appeler CEAF, donc ça va être moins long pour la suite.
Parfait.
On est un centre de femmes qui est situé dans le quartier Centre-Sud depuis au moins 5 ans, en fait, plus de 50 ans. Là, on a fêté nos 50e l'année dernière. Un centre de femmes, il y en a 80 au Québec, même plus. Il y en a dans pratiquement chaque quartier. C'est des organismes communautaires qui sont des milieux de vie de jour pour les femmes, toutes les femmes, surtout les femmes du quartier, mais toutes les femmes sont bienvenues. Puis, on offre notamment, on fait des ateliers d'éducation populaire sur des sujets comme féministes, sur le droit des femmes. On fait aussi des actions collectives, beaucoup. Donc, nous, c'est un peu notre majeur au CEAF. Et le projet Harcèlement de rue, en fait, comme on l'appelle, est né de ça, de notre volet Action collective. Donc, ça fait plus de 10 ans que nous, on s'intéresse à ces enjeux-là, mm-hmm. à ces questions-là, puis on a fait énormément, énormément d'actions là, dans ce cadre-là, dans ce volet-là de nos services. Puis on a également, c'est un milieu de vie, donc les femmes viennent prendre un café, discuter, on fait beaucoup d'interventions informelles.
Beaucoup d'échanges, forcément. Eh bien, c'est sûr que là, le harcèlement de rue, c'est pas d'hier. Hein? Je pense que vous êtes toutes jeunes, mais moi, je me souviens très bien hein, que quand j'avais peut-être 10 ans, c'était... monnaie courante de se faire siffler
les hommes
rue.
Sifflaient beaucoup à l'époque.
Absolument, c'était comme... Ouais. ben, j'en parlais à mon fils, là, qui a à peu près 42 ans, et puis je me disais, ben, c'est sûr que c'était familier. On était élevés là-dedans, et puis c'était, on banalisait ce comportement-là.
Mais c'est pour ça, Béatrice, je me pose la question, est-ce que c'est un problème grandissant maintenant? Parce que il me semble que pendant un certain temps, on voyait, ben, en fait, peut-être parce qu'on vieillit, on le voit plus, là, ou quand on... Mais je le voyais plus, ce problème-là, à Montréal.
Bien, en fait, c'est vraiment intéressant, en fait, tout ce que vous venez de dire, mais ça existe encore, ça, c'est sûr. J'ai pas... Nous, en fait, on a fait des recherches parce qu'il n'y en avait pas à Montréal, nous, quand on a commencé à s'intéresser à ça en 2013. On n'avait pas de portrait, on n'avait pas de statistiques. Fait, nous, on s'est dit, il faut vraiment qu'on documente parce que, justement, pour voir l'évolution, bien, il faut le documenter. Mm-hmm. Nous, en ce moment, la dernière... le premier, en fait, à Montréal, portrait quantitatif qu'on a fait, c'était une recherche populationnelle. Donc, on a vraiment... c'est une firme de sondage qui a sondé plus de 3000 Montréalais, Montréalaises, pour savoir, dans l'année 2020-2021, combien de personnes avaient vécu du harcèlement de rue. Puis le chiffre qui a été sorti, en fait, dans la population générale, donc hommes, femmes, c'est 65 % des personnes en 2020-2021.
Ah,
donc,
même.
On se rappelle que c'était la COVID, puis qu'on n'était pas dans l'espace public beaucoup à ce moment-là. Vrai. Donc, ça nous laisse croire aussi que ça pourrait être un plus grand chiffre. C'est sûr que quand on est, par exemple, une femme racisée, une femme autochtone, la statistique, ben, elle monte à 95 % des personnes de ces femmes-là qui en ont vécu dans l'année 2020-2021. Pour les jeunes de 18 à 24 ans, on va être autour de 82 %. Donc, je ne sais pas si c'est grandissant, mais malheureusement, ça existe
semble,
encore.
Hein.
Puis c'est intéressant, Chantal, quand vous avez dit « j'avais 10 ans », donc nous, en fait, c'est beaucoup quelque chose qui nous a été dit, que les mineurs, en fait, les personnes étaient mineures lorsqu'elles se sont faites harceler pour la première fois. Fait qu'on a aussi recherché, on a fait un rapport de recherche pour savoir, est-ce que c'est commun? Puis en fait, beaucoup de premières expériences, c'est quand on est mineur par des hommes majeurs. Donc il y a aussi un autre enjeu qui vient là, qui
Tout
est très, très inconfortable, puis qui est très préoccupant pour nous. Donc,
Alors c'est ça, puis là, il y a ce rapport, mais c'est un rapport vraiment fort complet parce que non seulement, bon, ça révèle des statistiques, des chiffres et tout, mais il y a quand même aussi là-dedans des recommandations et c'est vraiment très, très, très varié, c'est-à-dire qu'on adresse des recommandations à, ben, autant au SPVM, bien sûr, les policiers, mais aussi les municipalités. Il y a plein d'intervenants, enfin, qui sont concernés là-dedans.
Exactement. En fait, nous, notre espèce de message qu'on veut envoyer, c'est vraiment que ça concerne tout le monde. Donc, tout le monde qui est dans l'espace public, tout le monde qui est dans la ville. Donc, c'est l'affaire de tous et toutes. Puis, on peut tous et toutes agir aussi contre le harcèlement de rue. Donc, pas besoin non plus d'attendre que... C'est sûr que les institutions, comme on travaille beaucoup quand même en partenariat avec la Ville de Montréal, avec la STM aussi. Donc, les institutions, c'est sûr qu'elles ont des rôles à jouer. Mais nous aussi, en tant que citoyens et citoyennes, on pense que c'est important de pouvoir agir quand on se sent en sécurité pour le faire, bien sûr, mais on a développé aussi des revendications puis des outils pour pouvoir outiller, en fait, les témoins, les personnes. Ouais. Tu sais, quand ça nous arrive pas à nous, mais que la personne à côté de nous, on sent vraiment qu'il y a un inconfort dans ce qu'elle vit avec un inconnu dans l'espace public, ben qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie et si on se sent à l'aise de le faire? Donc, ben là, je donne des exemples, mais tu sais, nous, on donne des formations sur ça, puis tout ça, donc ça pourrait être très long.
Oui, ça pourrait être long quand même, mais on pourra, si on a le temps, on pourra en parler quand même un petit peu, mais parce qu'en fait, autant dans les transports, hein, ça, c'est bien entendu, donc là, vous parliez de la STM qui peut être visée, il s'agit de sensibiliser ces autorités-là aussi au problème qui est toujours présent, même si on a l'impression qu'il n'est pas aussi visible qu'autrefois. Là. On faisait référence au sifflement des hommes à l'époque. Bon, ça, c'était très évident. Mais de quelle façon ça se manifeste aujourd'hui, là, le harcèlement de rue, là, plus concrètement?
Oui, bien nous, en fait, pour essayer de l'expliquer, justement, il faut le définir. Donc, on a fait différentes catégories, en fait, de violence, là, donc, dans lesquelles on peut regrouper certains gestes ou comportements. Donc, évidemment, tout ce qui est sifflement, toutes les violences aussi verbales, des insultes, des menaces, ça s'appuie tout le temps sur des rapports de pouvoir, en fait. Ça, c'est important pour nous de le dire, dans le sens où c'est une personne qui est inconnue dans l'espace public puis qui a un rapport de pouvoir sur nous parce qu'on est femme, parce qu'on est une femme racisée ou parce qu'on est en situation d'handicap, puis va se servir, en fait, de ça pour venir faire du harcèlement. Donc, oui, le sifflement, tout ça, il y a aussi tout le volet violence sexuelle. Donc, il y a de l'exhibitionnisme, des gens qui se frottent sur des personnes dans le métro. Mm-hmm. On a également, simplement au niveau psychologique, se faire suivre, mm-hmm. se faire fixer du regard. Tu sais, on le sait quand on a un regard malveillant sur nous. Puis ça, c'est une forme de harcèlement aussi. Donc, ça prend malheureusement énormément de formes. Il y a beaucoup de créativité chez les harceleurs, malheureusement. Fait que c'est vraiment un spectre de violence, tu sais, qui se manifeste de différentes manières.
Mais si dans la rue, je me promène et ça m'arrive, mm-hmm. je fais quoi? Alors, je ne peux pas aller porter plainte en police. Les policiers vont dire, ben madame, mais je fais quoi, moi?
Ben c'est une excellente question. C'est sûr que des fois, en fait, nous, on n'a pas de recette. Là. C'est important pour nous aussi de dire qu'on réagit toujours comme un peu. Mm-hmm. Les femmes ont développé des stratégies, depuis toujours, là, pour circuler puis avoir accès à l'espace public. Donc, on en connaît des trucs, tu sais, ignorer, se déplacer, documenter la situation. De plus en plus, il va y avoir des jeunes qui vont filmer avec leur cellulaire, mm-hmm. par exemple. Sinon, moi, j'invite quand même à aller voir les... Tu sais, c'est rare qu'on est seul dans la rue, c'est rare qu'on est seul dans l'espace public, complètement isolé, surtout à Montréal, surtout l'été, quand il y a beaucoup de gens dehors, d'interpeller des gens autour, de dire... En ce moment, tu sais, je suis inconfortable, okay. Il y a ça qui se passe, est-ce que vous pouvez juste venir avec moi? Tu sais, d'essayer d'aller chercher un peu de support là, ouais. autour de soi.
Et souvent, ben c'est ça, c'est un problème. Les gens ont peur aussi d'intervenir. Ça peut être une difficulté aussi. Mm-hmm. Hein? Ça a toujours été, quand il se passe quelque chose, les gens, en général, il y en a qui préfèrent ne pas intervenir. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Le rapport est disponible hein, sur le site Internet.
Oui, absolument. Donc, vous pouvez aller voir sur caf-montréal.qc.ca pour nos trois rapports de recherche. On est également actifs là, sur les réseaux sociaux puis on a des belles campagnes de sensibilisation qui s'en viennent.
Bon, très important, le harcèlement de rue. On pensait pas qu'on en parlerait encore et encore, mais oui, c'est pas terminé. Alors, merci, Béatrice Mercier, d'être venue nous en parler. Ça a été un plaisir.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Aime l'été.
Et oui, Aime l'été, deuxième moitié d'heure. Alors, sujet très intéressant qu'on a eu avec Mme Mercier, là, hein, n'est-ce pas, Nathalie?
Ah, oui.
C'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on vit encore et toujours, finalement. C'est ce qu'on réalise. Et puis, nous, on l'a vécu beaucoup étant plus jeunes.
Hein. Ce que je réalise, c'est que les jeunes vivent ça encore.
C'est ça.
Ça qui est dramatique. Je trouve ça juste incroyable.
C'est incroyable, je sais.
Oui.
Et puis, vraiment, on est surpris qu'il y a encore autant de ces... pratique chez les hommes, bien sûr, et puis
ouais.
enfin. Alors, on va changer de sujet, là, mais on va parler avec Claude Ayerdi-Martin pour parler du roux-livre. C'est quoi le roux-livre? Il va nous dire ça à l'instant. Bonjour!
Oui, bonjour!
Oh, ben comment allez-vous?
Très bien, merci, et vous?
Bon, ben oui, alors, écoutez, bon, ça me fait plaisir de vous accueillir. Alors, vous nous parlez du roux-livre, qui est cette bibliothèque mobile qui va se déplacer tout l'été, sur la route et dans les arrondissements, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension notamment. Alors, il y a des dates bien précises. Parlez-nous de cette belle initiative. Comment ça a commencé, tout ça?
Oui, en fait, c'est une initiative. Le roux-livre existe depuis 2015, donc ça fait plusieurs années déjà qu'on roule dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Auparavant, la ville de Montréal, il y avait un bibliobus, donc c'était quelque chose de beaucoup plus gros qui se promenait dans différents arrondissements et qui, pour différentes raisons, a dû cesser. Et nous, à l'arrondissement VSP, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, on avait envie de continuer avec ce projet-là parce qu'on est un arrondissement qui est très, très grand et on a donc beaucoup beaucoup de gens, citoyens, qui malheureusement sont éloignés des bibliothèques, ils ne peuvent pas toujours se déplacer, mm-hmm. il y a certaines barrières physiques et autres raisons. Donc, avec le Roulivre, ça nous permet vraiment d'aller à la rencontre des gens et se déplacer dans des lieux qui sont plus proches de leur domicile, et on peut faire profiter les citoyens, particulièrement les 0-13 ans, avec nos livres jeunesse et les activités qu'on propose avec le Roulivre.
C'est ça. Parce que la lecture, là, c'est vraiment un des piliers de l'apprentissage pour les enfants. Là. Ça permet aussi de renforcer les apprentissages à l'école et tout. Alors, c'est vraiment important qu'on puisse, en fait, faire profiter des livres aux enfants, parce que faut dire aussi que dans les écoles, là, dans les dernières années, on s'est plaint que les bibliothèques d'école disparaissaient peu à peu, par manque d'investissement ou par manque d'espace aussi.
Oui, souvent, ben c'est vraiment pas ma connaissance
comme ça,
de base,
ouais,
mais
vrai.
Je sais que c'est quelque chose qu'on observe. Nous, on collabore beaucoup avec les écoles qui parfois ont moins de collections dans leur lieu, ou qui, malheureusement, des fois, la bibliothèque peut disparaître au profit de classes supplémentaires. Là, on peut voir ça arriver. Donc, nous, dans les bibliothèques publiques en général, on s'assure aussi de pouvoir offrir aux professeurs soit de leur prêter des livres pour qu'ils puissent en avoir dans leur mm-hmm. classe, ou ailleurs d'accueillir des groupes. La majorité des bibliothèques à Montréal accueillent des groupes scolaires du primaire toute l'année, des fois 2-3 groupes scolaires par jour pendant la semaine aussi.
C'est ça. Donc, mais là, vous avez un horaire d'été, c'est sûr, mais pour ce qui est de l'accueil que vous recevez, puis dites-nous là, comment ça fonctionne concrètement. Est-ce qu'il faut s'abonner? Comment ça se passe? Parce que c'est un prêt. Alors, il faut redonner notre livre aussi quand le roulivre repasse dans notre quartier.
Oui, tout à fait. Bien, en fait, nous, on a 5 arrêts dans notre arrondissement pendant l'été. On fonctionne aussi pendant l'hiver, mais avec un horaire un peu plus réduit parce qu'on doit se déplacer à des endroits qui ont un espace intérieur pour nous accueillir. Donc, en fait, on arrive avec notre camionnette qui est remplie de livres. On a aussi des jeux de société. On a des activités de création artistique aussi qu'on peut faire aux jeunes et aux familles qui se présentent. Et donc, on va se présenter quand il fait beau. On essaie d'être à l'extérieur, sinon dans un lieu intérieur à proximité, là, généralement dans les parcs. Et on va donc s'installer, avoir des couvertures si on est à l'extérieur. On a des tables aussi où on peut s'installer, faire du coloriage, regarder les livres en famille. Et les personnes peuvent venir et tout simplement consulter les documents s'ils le souhaitent sans avoir besoin de s'abonner. Mais si les familles le veulent, on peut également faire un abonnement sur place. Donc, avec une preuve de résistance, une carte d'identité pour les adultes qui peuvent abonner leurs enfants et à ce moment-là peuvent repartir avec des livres comme on le ferait dans n'importe quelle bibliothèque du réseau. Si jamais ces personnes ne souhaitent pas revenir au roulivre ou ça ne fonctionne pas pour eux dans l'horaire, ils peuvent déposer les livres dans n'importe quelle bibliothèque du réseau à la ville, y compris la grande bibliothèque, et ça va nous être retourné pour nous rajouter. Nous, en fait, on a une collection qu'on peut faire tourner qui se situe à la bibliothèque de Saint-Michel dans l'arrondissement. Et on a un local rempli de livres, donc on fait des rotations des livres pour qu'il y ait toujours
des nouveautés,
des nouveaux documents. Exactement.
Ouais, c'est ça. Alors, donc, ça fait, au total, là, ça veut dire à peu près, est-ce que vous avez des chiffres comme combien de livres par année que vous pouvez, que vous pouvez distribuer comme tel?
C'est une très bonne question et je dois dire que j'ai pas ces statistiques-là.
Non,
par contre,
ça.
Ce que je peux dire, c'est qu'on accueille plusieurs dizaines de personnes à chaque fois qu'on visite avec les livres. Donc, dans les lieux où nous sommes, c'est soit dans des organismes ou dans des parcs. Et là, d'ailleurs, on a un nouveau parc cette année qui est le parc Julie Hamelin, qui est un parc adapté pour les personnes qui vivent avec un handicap. Et déjà, là, ça fait seulement 2 semaines qu'on visite ce parc-là et on voit beaucoup d'engouement. Donc, on sent qu'il y a vraiment un besoin des gens de pouvoir conjuguer les activités. Donc, par exemple, d'aller au parc et de pouvoir aller emprunter des livres, faire un petit peu de lecture en famille. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et on a donc plusieurs dizaines de personnes qui viennent consulter nos livres et qui en empruntent.
Ah ben ça, c'est vraiment fort intéressant en plus, puis pour les gens qui sont en situation de handicap, problème de mobilité, bien sûr. Alors, et ça veut dire que le roulivre comme tel, là, vous l'avez aménagé avec des tablettes et tout, et puis bon, ça veut dire qu'il y a combien de livres qui peuvent rentrer dans le roulivre en question? dans
oui,
votre
en fait,
camionnette.
La façon dont ça fonctionne, c'est que la camionnette est aménagée pour vraiment entreposer les livres, mais les gens ne peuvent pas entrer dans la camionnette.
D'accord.
On a vraiment un treuil qui nous permet de sortir. Ce sont des étagères remplies de livres qui, évidemment, c'est très lourd, donc c'est pas notre équipe qui les descend eux-mêmes du camion, mais on a un petit treuil là, électrique qui vient descendre ces étagères-là et ça nous permet de recréer une petite bibliothèque donc dans l'espace où on est cette journée-là. Donc, que ce soit dans le parc ou que ce soit dans un chalet de parc ou dans un organisme qu'on visite, on peut vraiment s'installer. On a l'impression de se retrouver dans une petite bibliothèque temporaire qui est là pour quelques heures. Et donc, on a plusieurs centaines de livres qui sont disponibles pour ces journées-là. Et si jamais on en emprunte énormément cette journée-là, ben le lendemain, on remplit nos étagères pour pouvoir offrir encore d'autres livres le lendemain.
Donc, pour avoir accès aux heures, là, on va sur le site de Roulivre.
Hein? Oui, tout à fait. Sur montréal.ca, il y a une page dédiée aux Roulivre. En général, pendant l'été, on est ouvert du lundi au vendredi et on offre le service environ entre 15h et 18h, ce qui permet à la fois de pouvoir accueillir certaines garderies, certains camps de jour, mais également pouvoir accueillir les familles, justement, au moment où ils vont aller chercher leurs enfants au camp de jour, au CPE, à la garderie, et venir nous visiter dans le parc là, avant de retourner à la maison pour le souper. Donc, ça nous permet de rejoindre vraiment une grande variété de clientèle de cette façon-là.
Est-ce que vous acceptez les gens qui ont des livres, qui donnent des livres? Est-ce que vous les acceptez, ces livres-là? Moi, j'en ai des livres pour enfants qui sont de très belle qualité encore, ça paraît pas qu'ils sont usagés, mais est-ce que vous en acceptez?
Cette directive-là est vraiment différente d'un arrondissement à l'autre,
okay.
Mais je vous dirais que dans notre arrondissement, malheureusement, on les accepte pas parce que ça peut paraître étrange, mais c'est très, très complexe de recueillir ces livres-là, de les analyser un par un, voir si on les a déjà dans la collection, ensuite de les cataloguer, les rajouter. Donc, ce qu'on va encourager de faire, c'est plutôt de soit les donner aux Amis de la Bibliothèque de Montréal, qui sont un organisme, en fait, qui recueille les livres que nous gardons pas dans les bibliothèques et qui les revend à très bas coût à chaque année dans une grande vente de livres.
Mm-hmm.
Donc, c'est très, très intéressant parce que ça leur permet vraiment d'offrir à la population montréalaise un endroit pour acheter des livres à 50 sous qui souvent peuvent valoir beaucoup plus cher.
Mm-hmm.
Et tout l'argent récolté est réinvesti dans les bibliothèques pour offrir des activités aux citoyens.
Oui, c'est intéressant. À votre connaissance, avez-vous initié d'autres initiatives en quelque sorte? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres camionnettes du genre?
Tout à fait. Je ne pourrais pas toutes vous les nommer, mais je sais que ça existe dans l'arrondissement Hunsic, dans le sud-ouest, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve notamment. Donc, selon les arrondissements, des fois, ça peut être différent. Le service offert va être un petit peu différent, mais on a vraiment ce souhait d'aller rejoindre les personnes là où ils sont. Donc, on le fait avec cette camionnette-là. Mais par exemple, dans notre arrondissement, on le fait aussi avec une bibliothécaire qui elle-même va se présenter dans des HLM pour les personnes âgées qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer puis aller leur porter des livres qu'ils vont lui avoir.
Il y a toute cette clientèle aussi. Intéressant.
Oui, tout à fait. Donc, on essaie vraiment de donner des services aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans nos lieux parce que effectivement, la bibliothèque, c'est un des rares lieux gratuits qui offre de la culture de cette façon-là. Mmh. Donc, on veut s'assurer d'en faire profiter le plus de personnes possible. Et il existe aussi dans l'ensemble de la ville un programme qui s'appelle Bibliocourrier où les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent recevoir les livres par la poste à la maison en les réservant par téléphone ou en ligne via notre service. Est aussi disponible sur le site web pour ceux que ça peut intéresser.
Ah ben, très intéressant. Claude Ayerdi-Martin, ça a été un plaisir de vous accueillir. Donc, Roulivre, cette bibliothèque mobile pour les jeunes de 13 ans et moins dans les arrondissements, notamment de Parc Extension, Villeray-Saint-Michel et tout. Alors, c'est sûr, on prend tous les détails sur votre site Internet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ça a été un plaisir et bon été et bonne lecture.
Merci
à tout le monde.
À vous aussi. Au revoir.
C'était la formation Maz qui jouait Prototype E.
Bon, voilà. Merci, Mathieu. Alors, évidemment, un autre beau sujet, Nathalie, que c'est cette bibliothèque mobile. Mais tu sais que, bon, je t'ai parlé, évidemment, c'est sûr que le fait que l'accessibilité aux livres ne soit pas si évidente dans les écoles, ça, ce sera un sujet dont on va reparler très certainement. Ouais. Et puis, on va parler des bibliothèques en général aussi, ce qu'offrent les grandes bibliothèques aussi à travers Montréal. Mais il y a des...
C'est ça, tu me parlais d'initiatives de bibliothèques mobiles qui sont super sympathiques.
Oui, parce que
j'ai de ça tantôt.
J'avais fait une petite recherche. Ouais. Et puis, oui, c'est parce que ça se fait un peu à travers le monde. Hein. Il y a des bibliothèques mobiles sur les plages, oui, en France notamment. Alors, ça s'est fait là, qu'importe que ce soit des projets qui sont en cours ou pas, mais de toute façon, il y a des initiatives personnelles également. Ça peut être quelqu'un qui part avec son âne et puis avec des livres pour donner, pour justement apporter la lecture à des enfants aussi, à des populations qui n'ont pas du tout accès donc à la lecture comme telle, à des bibliothèques et tout. Et puis, alors ça s'est fait un peu partout. J'ai vu des exemples en Afghanistan. J'ai vu, que ce soit quelqu'un qui part à vélo aussi, ou quelqu'un qui part avec son cheval. Il y a même quelqu'un, enfin, qui... Ça peut être pour lutter aussi contre l'analphabétisme. Hein. En Indonésie, ça s'est vu également. Et puis, c'est vraiment... Il y a le cheval bibliothèque, oui. Et puis, il y avait aussi celui qui a un temps que bibliothèque.
Oui, le tank, ça, c'est bien impressionnant.
Oui,
tank.
C'est ça, il y a un tank bibliothèque. Ça, c'est à Buenos Aires, oui. Un artiste qui a eu cette idée saugrenue d'aménager comme un tank bibliothèque. Mm. Et puis, voilà, dans sa vieille bagnole, quoi.
Mais dans la ville de Montréal, il y a certains endroits. En fait, avant, je demeurais dans Hochelaga-Maisonneuve, il y en avait plusieurs. Là, je suis à l'île des Sœurs, il y en a aussi. C'est des petites cabanes qui sont installées à l'extérieur. Les gens se servent, il y a des livres dedans. Je trouve le nom du programme.
Dans les municipalités, on en a, nous aussi, dans ma municipalité, de ces boîtes où
Exactement.
On peut déposer des livres.
Les gens déposent des livres, Absolument. D'autres viennent en chercher. Puis souvent, le matin, je pars tôt pour aller marcher et je vois des gens déjà, écoute, il est 7 heures du matin, puis les gens vont chercher des livres.
Oui, c'est
super sympathique.
C'est très sympathique, oui, ces petites boîtes, je sais, j'oubliais d'en parler, mais c'est tout à fait, j'en ai... chez moi aussi. Alors, et puis en tout cas, non seulement des ânes, mais j'ai vu des dromadaires aussi. C'est très drôle. En tout cas, on y reviendra un peu plus tard dans le courant de l'été. C'est un beau sujet.
Oui, ça serait le fun, fin août, là, parler de la disparition des bibliothèques scolaires.
Ouais.
Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est quoi l'avenir des bibliothèques scolaires?
Oui, puis surtout, à un moment donné, c'est qu'on a manqué d'espace. Alors, puis il y a le financement, d'accord, mais c'est pas que le seul problème non plus.
Exactement.
Et là, on va changer de sujet. On parle, on reçoit notre collaboratrice à la recherche. Et oui, Clarence Robitaille Meloche, qui est avec nous tout l'été. Et tu as fait des lectures fort intéressantes. Là, tu nous parles d'un roman, mais aussi tu vas parler de diversité sexuelle en même temps.
Ben oui, bien sûr, parce que c'est le sujet principal du roman. Donc, c'est un peu difficile d'aborder le texte sans parler de la thématique principale. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Loveless, qui est un roman d'Alice Osman. Donc, en gros, l'histoire, c'est l'histoire de Georgia, qui a 18 ans au moment du récit, qui commence à réaliser qu'elle n'est peut-être pas hétéro. Et là, au fil du livre, elle commence à comprendre qu'elle n'est pas non plus lesbienne, qu'elle n'est pas non plus bisexuelle, pour découvrir finalement, je ne divulgâche rien parce que c'est écrit sur la quatrième de couverture, qu'elle est en fait asexuelle. Donc, une personne asexuelle, très rapidement, parce qu'on va y revenir tout à l'heure.
Oui, c'est important de nous dire exactement ce que c'est. Ouais.
Être asexuelle, on va y revenir, c'est ne pas ou très peu ressentir de désir sexuel, tout simplement. Donc, c'est une orientation sexuelle comme l'homosexualité, la bisexualité, qui font partie de la communauté LGBTQIA+.
Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis là, c'est qu'en fait... ça, c'est quelque chose, on a tous entendu parler de ça, mais évidemment, mais pas dans le sens que c'est une orientation sexuelle.
Non.
Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprenais là.
Tout à fait. D'ailleurs, dans le très long acronyme de la communauté queer, le A veut dire asexuel.
D'accord. Alors, et puis on peut dire aussi ace, hein, je pense.
Ace, oui, ça, c'est un diminutif, pour asexuel. Elle l'utilise dans le livre, d'ailleurs.
Alors donc, c'est ça, ce personnage qui va finalement, au fil du roman, j'en ai lu des parties, qui va donc, avec ses amis, interagir, parler de sexualité, vivre certaines expériences, et puis ben, chacun se découvre peut-être une différence, mais elle va vraiment prendre conscience de ce phénomène-là. Et puis, bon, est-ce que, qu'est-ce que toi, tu y vois? Est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, c'est aussi un spectre, hein? C'est ça.
Tout à fait, parce que il n'y a pas une seule forme d'asexualité, comme il n'y a pas une seule forme d'homosexualité, il n'y a pas une seule forme de bisexualité. Donc, on peut être asexuel, mais avoir quand même du... je ne peux pas dire ça comme ça. Être asexuel et avoir quand même des sentiments amoureux, comme on peut avoir des sentiments amoureux, mais pas de désir sexuel. Parce que dans la société dans laquelle on vit, on a tendance à croire que le désir sexuel et l'amour amoureux, ça va ensemble. Et que c'est... Même quand on explique, par exemple, à des enfants, c'est quoi la différence entre des amis et des amoureux, ben on va souvent évoquer le sexe. Tu couches avec la personne que tu aimes, mais tu couches pas avec tes amis. Bon.
Alors, c'est pas si vrai que ça. Il peut y avoir...
Non.
Alors là, on appelle ça aussi, il y a aromantisme.
Aromantisme, oui. Donc, c'est un peu lié à l'asexualité. Donc, l'asexualité, c'est l'absence ou la très petite portion d'attirance sexuelle chez quelqu'un. L'aromantisme, c'est le pas ou peu de désir amoureux. Donc, une personne peut être aromantique, donc ne pas ressentir d'amour amoureux pour quelqu'un, mais quand même avoir une vie sexuelle active.
Ouais.
Comme une personne asexuelle peut ne pas du tout aimer le sexe, ne pas du tout avoir d'envie sexuelle, mais avoir quand même des sentiments amoureux pour quelqu'un. Donc, les deux sont très indépendants. Mais dans le cas de Georgia, dans le livre, elle est asexuelle et aromantique.
D'accord. Alors là, c'est une auteure, évidemment, qui est à la fois très intéressante, cette auteure qui... il y a une traductrice aussi qui a fait le travail. Et bon, c'est une francophone, bien sûr. Mais parle-moi un petit peu de cette auteure. Et puis aussi, on peut parler également de la littérature jeune adulte. Ça, c'est un autre beau sujet.
Oui, tout à fait. Donc, Alice Osman, c'est une jeune auteure qui est tombée dans la littérature un peu par hasard. Elle a commencé à la base, c'est une BDiste ou quelqu'un qui fait des romans graphiques, et elle a commencé à écrire et à dessiner ses œuvres ou ce à quoi elle pensait. Elle y est allée vraiment dans le young adult typique, et elle les a publiées sur les plateformes Webtoon, qui est une plateforme de romans graphiques, mais par des amateurs, et ça a très, très bien fonctionné. Sa BD Heartstopper a été un très gros succès, tel point que Netflix en a racheté les droits pour en faire une série qui, à ce jour, est encore très populaire. Mm-hmm. Ils ont fini leur troisième saison. Et elle est tombée un peu là-dedans. Donc, elle fait vraiment du young adult typique. Donc, le young adult, c'est quoi? C'est de la littérature qui s'adresse spécifiquement aux adolescents et aux jeunes adultes. Tout simplement. Et contrairement à ce que les gens croient, la littérature jeune adulte, c'est une catégorie, ce n'est pas un genre. Parce que dans le young adult, on trouve très bien des romans comme les œuvres d'Alice Osman, qui sont plutôt contemporaines, plutôt axées sur le sentiment, alors qu'on retrouve aussi des romans comme la série de Percy Jackson ou Harry Potter, qui sont beaucoup plus du côté du fantastique.
Exactement. Je pense à Twilight aussi, hein?
C'est du young adult aussi.
C'est aussi de la littérature jeune adulte, exactement. Et puis, bon, il y en a pas mal, mais bon, puis il y en a aussi un peu... Bon, enfin, on va avoir ce concept de c'est plus que des livres d'adolescence, finalement. C'est plus que ça.
Oui, un peu. Dans le cas d'Alice Osman, on est d'accord que la structure reste assez typique. On a vraiment tous les personnages un peu typiques qu'on trouve dans les young adults ou dans les coming of age, qui sont des livres qui parlent justement du passage de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge adulte, ce qui est un peu le cas dans Loveless. On a une héroïne principale qui est très introvertie, qui est très malhabile socialement, mal à l'aise dans sa peau et qui va se découvrir au fil du roman. On a sa meilleure amie, ici, elle s'appelle Philippa, Pip, mm-hmm. dans le livre, ou Pipe,
ouais.
en anglais. Qui est la meilleure amie excentrique, qui est la meilleure amie avec un fort caractère. qui est aussi un personnage très classique. On a Jason, son meilleur ami masculin, donc qui est vraiment le type parfait. Donc, il est beau, il est gentil, il est intelligent et il est secrètement amoureux de l'héroïne. Donc, ça aussi, c'est une trame narrative classique. On a Sunil, donc le personnage qui est un peu le mentor du groupe. T'sais, il est un peu plus vieux, il a un peu plus vécu. Et c'est lui qui va soutenir Georgia dans sa découverte d'elle-même parce que lui aussi est asexuel. Donc, il peut la comprendre mieux que ses amis qui n'ont pas l'air de trop comprendre ce qui se passe avec elle. Et on a Rooney qui, elle, c'est la meilleure amie aussi, mais c'est la meilleure amie qui est très extravertie, qui semble très à l'aise dans son corps, très à l'aise dans sa sexualité, très sûre d'elle-même, pour qu'on se rende compte finalement que ce n'est pas exactement le cas. Donc, on est vraiment sur des trames très classiques. Mais ce qui est intéressant, c'est les sujets qui sont abordés, parce que c'est la première fois qu'un roman young adult met en scène un personnage asexuel. Donc, où la conclusion, c'est pas « Ah, ben finalement, je me suis trompée, c'est pas je suis attirée par l'autre sexe », c'est vraiment « Ah ben en fait, je n'aime personne et c'est pas grave ».
C'est ça. Donc, ça vient démystifier cette chose-là et la rendre plus accessible et puis, créer une ouverture en même temps sur toutes ces préoccupations des jeunes, enfin, ces questionnements également.
Oui, mais c'est sûr que c'est accessible, ça c'est vrai. Bon, on pourrait reprocher à l'auteur d'avoir gardé dans son texte une structure extrêmement clichée, dans une écriture assez premier degré, assez répétitive aussi. Donc, c'est ce que les critiques négatives lui ont reproché. Et donc, du fait que le seul roman young adult qui parle d'asexualité ne soit pas un roman hyper travaillé, ça n'a pas plu à tout le monde. Ceci dit, c'est parfois agréable d'avoir un roman qui est premier degré, donc qui est facile à comprendre. Mm-hmm. Ça peut être simple.
C'est intéressant. Oui. Donc, c'est une belle suggestion de lecture là, pour des jeunes qui vivent un peu cette situation-là, qui ne savent pas trop se situer là, personnellement.
Alors, tu parles de jeunes, mais dirais-tu, Clarence, qu'un parent qui se pose des questions, qui essaie de comprendre davantage le milieu LGBTQ+, est-ce qu'il pourrait lire ce livre-là pour essayer d'en connaître davantage?
C'est sûr que c'est un livre qui permet aux gens qui n'ont pas forcément la culture LGBTQ+, de comprendre. Donc, oui, un parent pourrait s'y intéresser, un parent qui ne s'y connaît pas beaucoup. Bon, encore une fois, quand on lit du Alice Haussmann, on ne peut pas s'attendre à un style littéraire très développé. Ce n'est pas Victor Hugo.
Non.
On ne s'attend pas à un style très développé.
Mais pour essayer de comprendre, des fois, t'es mieux de ne pas justement avoir du Victor Hugo.
Il faut que ça reste simple et accessible, comme tu disais.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des personnages de parents dans le livre.
Oui.
Ils ne sont pas aussi présents que les jeunes. On laisse beaucoup plus de place aux jeunes, mais il y a des scènes, justement, où Elise, la cousine de Georgia, qui a 34 ans et qui, elle aussi, est asexuelle, sauf qu'elle, elle ne sait pas que ça s'appelle asexuelle. Elle a essayé d'avoir des relations amoureuses, ça ne marchait pas, elle n'avait pas envie, elle est mieux seule. Et les parents d'Élise comprennent très mal ça. En fait, ses parents sont très conservateurs, ils ne l'acceptent pas. Donc, ils lui sortent l'argument de « mais comment ça, tu ne fais pas d'enfant, tu es complètement égoïste, parce que si toi, tu n'as pas d'enfant, nous, on ne sera jamais grands-parents. » Donc, on se demande qui est égoïste.
Qui est égoïste, oui.
Qui est égoïste. Donc, ça pourrait peut-être montrer aux parents qui ont un peu ce raisonnement-là de dire « non ».
Okay.
Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans la tête de votre jeune qui explique son raisonnement à lui ou sa partie
de l'histoire? Donc, ça permet de mieux comprendre. En tout cas, c'est une littérature jeune adulte qui a été vraiment... qui a connu son âge d'or. Enfin, bon, ça a commencé à peu près, je dirais, dans les années 70, là, les années 80. Enfin, il y a eu toutes sortes de thématiques, évidemment, d'adolescents. Mais on sait qu'à partir des années 80, là, ça va devenir des sujets peut-être plus sombres. Hein. On parle de sujets comme... le viol, le suicide, enfin, etc., etc. Mais dans les années 90, là, vraiment, ça explose. Là, de à peu près 250 livres parus dans le monde pour la littérature jeune adulte, on est passé autour de 7000 livres. Alors, ça vous dit... ça vous donne une idée du succès de cette littérature-là. Bien, ça a été intéressant et puis je suis sûre qu'on aura l'occasion de reparler de toute cette thématique au cours de l'été. Un gros merci, Clarence.
Ça fait plaisir.
Merci. Alors, puis on se retrouve, nous, dès demain, bien sûr. Merci, Nathalie. Alors, une autre belle journée pour nous. Et puis demain, ça continue à Aime l'été. Alors, on sera là entre midi et 13h. Ici Chantal Lavoie. Passez un bel après-midi. À demain, tout le monde.